Proszę bardzo, Michał.
C'est par anagramme, par changement anagrammatique, on les embellit. Et alors non, c'est tout simplement c'est un nom juif. Il ne voulait pas que ça leur afficher un nom juif. Voilà. Il y avait effectivement des difficultés orthographiques. Oui, mais alors on peut se poser la question, pourquoi les Polonais n'ont pas changé de nom? En France, les Polonais qui sont arrivés, les Butziak comme d'autres, n'ont pas changé de nom, ont gardé leur nom polonais. Alors que c'était compliqué à prononcer. J'ai demandé à d'autres communautés, hein, que ce soit les Tchèques, les Monténégrins, avec des noms difficiles, qui n'ont pas, parce qu'ils me disent, mais jamais j'aurais changé de nom de mon père. Les Turcs, Arméniens, alors Arméniens aussi ont changé de nom, les Arméniens ont changé de nom. C'est intéressant de s'intéresser après aux autres communautés, effectivement. Bon, là, ça serait encore... Mais Nicole Lapierre, je vous invite à lire le livre de Nicole Lapierre, Changer de nom, où elle parle de différentes communautés africaines, d'ailleurs, aussi. Donc, toutes les communautés n'ont pas, même s'il y avait des noms difficilement prononçables. Oui. Moi, mes parents ont changé de nom. Je me suis appelée Israël jusqu'en 1958. Donc en 1958, on a changé de nom, mais au lycée, mes copines de classe pensaient que mes parents avaient divorcé. Alors la vie a changé, effectivement. C'est pas renier quelque chose. Parfois les gens interprètent comme ça. Mais c'est évident, mes parents avaient une entreprise. Mon père se faisait appeler par son prénom. Israël, c'est très beau, mais on passe pas inaperçu. On allait des messes, on allait souvent au Luxembourg ou en Belgique. On se faisait systématiquement, on nous demandait systématiquement d'ouvrir le coffre à la frontière. Les parents sont allés en Angleterre en 1954, c'était pareil. Et une copine m'a dit, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Et bien j'ai maintenant, quand on passe les frontières, on ne nous demande plus jamais d'ouvrir le coffre. Bon, ceci dit, tout le monde sait que l'antisémitisme a été et sera. Mais mon nom, après, c'était Islay. C'est Islay, maintenant je suis mariée, j'ai encore un autre nom. Mais je suis très fière de ce nom, il me plaît. Et c'est un fait que quand mes parents, je ne sais pas combien de temps ça a duré, je ne me souviens pas, je sais qu'il y avait un avocat, à cette époque, ça ne m'intéressait pas tellement, je voulais voir le résultat. Ils avaient choisi le nom qu'ils avaient pendant la guerre, où ils étaient réfugiés. C'était Ivernel. Pas Ivernel comme l'acteur, c'était Ivernel. C'est très beau aussi. Mais là, quelqu'un s'est opposé à ce nom, et après tout, on n'était pas un nom près. Bon, ben voilà, je vous remercie.
J'avais des amis, une jeune femme qui s'appelait Wittberger, et le nom a été changé après la guerre à Guerra, alors on retrouve le G, et également un ami avec qui j'ai fait ma scolarité, qui s'appelait Dukat-Unser, c'est-à-dire compteur de Dukat, et alors bizarrement, il a coupé son nom, et il reste Dukat. Alors justement, je voulais faire une remarque à ce sujet, parce que dans tous les exemples du film, dans ceux que je connais, et bien d'autres encore, on a comme l'impression que l'inconscient joue un tour aux gens, parce que comme si c'était en fait impossible de changer de nom en abandonnant complètement la trace, comme vous l'avez dit. Hein. Et je trouve que quand même, bon, puisque vous êtes psychanalyste, je pense que c'est quand même assez amusant de voir que couper son nom, bon, c'est pas rien, voilà. C'est, au fond, pour un garçon, c'est une nouvelle circoncision, ou une castration, comme on voudra. Et je me demande, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui changent leur nom, je veux dire des juifs, qui changent leur nom, et qui finalement ne gardent aucune trace? Est-ce que ça existe?
Il y en a. Il y a eu des choses, je n'ai pas un souvenir, dans le livre de Nicole Lapierre, donne des exemples de personnes qui ont changé, qui ont pris au hasard une station de métro. Donc voilà, ils ne savaient pas comment changer, et ils ont dit, oh, ils ont pris au hasard une station, ils se sont fait appeler du nom de la station de métro. Donc mais c'est beaucoup plus rare.
Oui.
La plupart du temps, il y a une trace.
On garde toujours la trace. C'est comme si c'était impossible.
De se couper complètement.
Ouais.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on vit, vite se vire fils d'eux.
Mais justement, je voulais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure à propos des Basques, des Catalans, des Galiciens, puisqu'on est quand même à Strasbourg. Parce qu'il me semble, c'est par rapport à la fondation que,
dont vous avez parlé tout à l'heure, qui fait des démarches collectives, qui fait des démarches au Conseil d'État. Est-ce que votre démarche ne serait pas justement renforcée si vous aviez le soutien de gens qui portent des noms autres que des noms français, disons à la jacobine, quoi, franco-français, franchouillard, je dirais même.
Mais il y a des noms ridicules.
Oui, non, mais pour nous, ça s'appelle con, bitoucule. Là, on a le droit de changer de nom, c'est normal. Bon, mais je veux dire, je parle de Müller, Schneider, ou bien au Pays Basque, ou en Catalogne Nord.
Je crois qu'il n'y en a pas comme ça, hein, des Schneider, bon, lui, qui change de nom.
Oui, justement, oui. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que on a eu quand même un beau lapsus de notre président, il n'y a pas longtemps, qui a dit ici en Allemagne, et je pense qu'il y a une vérité qui sortit de sa bouche là, c'est pas tout à fait la France, c'est pas tout à fait l'Allemagne, on est entre les deux justement, finalement l'inconscient de Sarkozy a parlé, mais je trouve justement que on devrait s'intéresser aussi, parce que ça veut dire, je trouve que, en fait, on ne peut pas, parce que la différence avec les États-Unis a été montrée déjà deux fois ici, on ne peut pas, au fond, être français si on n'a pas un nom du genre Vendôme ou machin comme ça. Hein, voilà.
C'est absurde. On peut être Rubinstein ou...
Et passe quoi.
C'est pour ça qu'est-ce qui fait qu'un nom est français, qu'est-ce qu'un nom à consonance française? Hoffmann est tout aussi français qu'un Dupont, qu'un Lozac de Bretagne ou autre. Je veux dire, ça reste des noms français, c'est des noms parfois, donc en fait, des noms de patois. Hein, il y a aussi différentes langues en France, donc c'est ça qui me paraît absurde. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas apporter Rubinstein? C'est aberrant. Ça me semble aberrant.
C'est justement parce que la France refuse.
Moi, je pense que c'est douteux, comme on dit, ça c'est une... C'est une position tout à fait personnelle, mais ça me semble douteux et inquiétant. Et c'est vrai qu'on se bat pour que, encore une fois, puisse s'appeler tout à fait librement Rubinstein quand on souhaite s'appeler Rubinstein.
Non, je vais essayer d'être parlé. Voyage que nous venons d'avoir, moi j'ai été très frappée d'un point de vue historien, et ça c'est une déformation dont vous pardonnerez, par les différentes générations, différents points de vue des générations. Et je serais tentée justement, en tant qu'historienne, de replacer ceci dans un contexte plus général de point de vue, qui dépasse, il me semble, de loin une communauté précise, ici, bon, la communauté juive, mais je pense qu'on la retrouve dans d'autres communautés et même dans, parmi des gens qui ne s'affilient pas à une communauté, quelle qu'elle soit, une philosophie, religieuse ou autre, cette recherche d'identité, et qui me paraît très nette dans la génération, la génération, disons, la plus jeune, celle qui n'a pas justement changé de nom. Moi, ça m'a beaucoup frappé et beaucoup intéressé de ce point de vue-là, les différences de génération.
Il ne comprend pas ce que nous avons vécu. Hein, et je lui dis, mais si, j'ai compris, mais je ne peux pas supporter, quoi. Hein. Donc il y a vraiment différents points de vue qui ne s'entendent pas toujours, qui se comprennent, mais qui ne s'entendent pas, c'est-à-dire au sens de la douleur et du traumatisme. Pour Olivier Rubinstein aussi, c'est un traumatisme. Débarquer à un moment donné à l'adolescence, surtout au moment de l'adolescence, où on lui dit, tu ne t'appelles plus Rubinstein, désormais tu es Monsieur Rimbaud. Je crois qu'il a aussi, il faut l'entendre, vous voyez, ça vient, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait, quoi, pourquoi maintenant, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on change de nom? Seconde, oui, tout à fait. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas l'un qui a raison plus que l'autre. Elle est différente, voilà. Non, tout à fait. C'est vrai qu'il y a une recherche d'identité à chaque génération, mais la génération du changement... Mais en tout cas, pour la dernière génération, pour la deux secondes, c'est justement regarder en arrière, c'est-à-dire en arrière pour aller devant d'ailleurs. Hein, vous entendez bien. C'est-à-dire que l'arrière doit être là pour le devant. Je crois que c'est si on perd l'arrière, si on perd les racines, qu'est-ce qu'on va devenir et qu'est-ce qu'on va transmettre? Alors c'est vrai qu'on transmet quand même, mais il dit, mais bon, si on perd le nom, et c'est vrai, parce que là, j'ai pas passé des familles qui ont changé de nom, mais qui ont aussi perdu le judaïsme. Souvent, ça a été ça, c'est-à-dire changer de nom pour oublier qu'on est juif. C'est pas le cas ici, hein, mais on en connaît.
Vous voyez, donc il y a vraiment un effacement identitaire qui a été radical pour certaines générations d'après-guerre et pour certaines familles marquées par la Shoah. Donc je pense que ça a eu aussi cette intention parfois, le changement de nom, c'est-à-dire ça y est, je ne veux plus être juif, je ne veux plus aucune trace de mon judaïsme. Mais ça revient à un moment donné, comme les marames, comme il dit, à un moment donné, ça revient. Quoi. On nous a empêchés, on a tué, on a étouffé, et ça reviendra à une autre génération. D'ailleurs, j'en ai une comme ça, des générations.